Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et une fois n'est pas coutume, c'est Nolwenn qui prend les rênes de l'émission ce soir. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Est-ce que tu as le programme de la semaine prochaine ?
Non, je l'ai pas.
Eh ben, je l'avais anticipé, le voici. Lundi, nous serons avec le Théâtre du Champ de Bataille, nouveau partenariat pour la saison 24-25. Mardi, encore un partenaire culturel de l'émission, on sera avec le Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Mercredi, on aura le Jokers qui va fêter ses 11 ans, je crois. Nolwenn, tu as pu déjà les interviewer dans un autre cadre. Hein.
Exactement, c'est ça, je les ai interviewés, mais pour la presse écrite.
Pour la presse écrite, et jeudi, nous serons avec Loire Othion, là encore, un partenaire de l'émission. Et ce soir, alors, Nolwenn, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, ce soir, on va accueillir l'ONPL, non pas tout l'orchestre, bien sûr, mais Alix Ilinsa, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Bonsoir. Tu es chargée d'action culturelle et territoriale de la structure et tu es venue avec Eve. Bonsoir.
Bonsoir.
Ensemble, on parlera d'un concert exclusivement réservé aux étudiants pour donner aux étudiants l'occasion de découvrir et d'écouter l'orchestre à petit prix, seulement 3 euros. Ça sera ce lundi 18 novembre à 20h au Centre des Congrès d'Angers. Concert non pas de rock, mais bien de musique classique. Eve Métayer, donc tu es étudiante et tu as déjà pu assister à un concert de musique classique le 13 octobre dernier. Donc on aura l'occasion ensemble de reparler de tout ça. Ensuite, on sera avec Willy de Cours et 49 qui nous parle de la prochaine date de Cours en Folie le 25 novembre aux Folies Angevines. Et on aura aussi l'édito de Bruno et la chronique de Choupi Matoudi aussi ce soir. Topette, c'est tous les soirs de 18h10 à 19h. On podcast sur radio-g.fr et aussi sur les réseaux @topetteradio-g.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais avant de s'installer en salle, je vous propose de partir découvrir une adresse angevine pour vos envies resto de ce soir.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un endroit un peu plus hétéroclite que l'on ne choisit pas pour un événement en particulier, mais pour plein de moments différents de la journée. J'ai nommé la cour. Ouvert depuis 2-3 ans rue de Larot par deux amis, tous deux anciens professeurs de plongée sous-marine. Parlons dans un premier temps du lieu. Grand, convivial, enveloppant, moderne et accueillant. De grands canapés en cuir vous attendent dans l'entrée pour partager votre table, éventuellement avec d'autres personnes. Puis, vous pourrez ensuite choisir entre des tables en hauteur, de vous asseoir au comptoir pour admirer leur magnifique bar ou de prendre des tables plus classiques dans la seconde partie du restaurant avec vue sur leur cuisine. Ces différents espaces et hauteurs créent justement cette ambiance chaleureuse où chacun peut trouver son bonheur. Au beau jour, vous tomberez évidemment sous le charme de leur cour intérieure, végétalisée, qui offre un véritable moment privilégié lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Du bois, du tissu, des lampions et de la verdure. Que demander de plus en plein centre-ville ? À quel moment venir, me demanderez-vous ? Eh bien, je vous répondrai tout au long de la journée. Et c'est pour ça que ce lieu est devenu incontournable sur Angers. Dès l'ouverture, vous pouvez aller apprécier un délicieux cappuccino accompagné d'une viennoiserie dans un de leurs grands fauteuils confortables à souhait. Pour le déjeuner, la cuisine est saine, végétale et toujours inspirée de touches du voyage. La carte change toutes les semaines, les produits sont frais et locaux. Vous trouverez ici une cuisine moderne, gourmande et équilibrée. À l'heure du goûter, on se jette sur leurs pâtisseries maison qui sont à tomber. L'heure ensuite à laquelle je préfère venir, c'est celle de l'afterwork. N'attendez pas 20h car vous risquez de ne pas avoir de place. Mais en sortant du boulot, c'est l'endroit parfait pour aller prendre un verre. De très bons cocktails que vous pourrez accompagner de planches à partager, de burgers et de plats conviviaux qu'on commande à plusieurs pour goûter un peu de tout. Le tout dans une ambiance animée, vivante, inspirante, variée et branchée. Mais ce n'est pas fini. La cour est désormais the place to be pour apprécier un super brunch. Les meilleurs d'Angers à mon sens, le samedi et le dimanche matin. Vous y trouverez tout ce qui vous fait rêver. Pancakes, avocado toast avec œufs pochés, bacon, saumon, granola, brioche perdue. Un délice pour les yeux et pour les papilles. Exactement le genre d'endroit où l'on vient se régaler après avoir lézardé la matinée au lit avec cette envie de continuer à profiter de son week-end en toute simplicité et avec un énorme supplément gourmandise. Gros avantage également, le service. Ils sont tous tellement gentils, efficaces, prévenants et de bons conseils. À la cour, vous pouvez venir entre amis, avec vos collègues pour de grosses tablées, en amoureux, avec vos enfants, en famille. Et c'est ce qui rend ce lieu unique. On s'y sent bien, à la maison, quelle que soit la façon dont on souhaite venir passer un bon moment. Et c'est pour ça que la cour, c'est toujours une bonne idée. C'est tous les jours, rue de Larro, et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Doit-on manger avant ou après le concert ? Élément de réponse dans Topette avec notre invité ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Alix, est-ce qu'il faut mieux manger avant ou après le concert alors ?
Je dirais que ça dépend de vos habitudes alimentaires, parce que le concert commence à 20h et termine à 21h20 à peu près, donc... Au choix, les deux sont possibles.
C'est une vraie réponse qu'elle donne.
Comme on veut donc. Et ce soir, on parle avec toi. Donc, tu es chargée de communication. D'action culturelle et territoriale à l'ONPL. Et donc, on va parler de ce concert qui est exclusivement réservé aux étudiants qu'organise l'ONPL chaque année. Ça arrive à grands pas puisque c'est ce lundi 18 novembre à 20h au Centre des Congrès. Mais avant de parler précisément de ce concert, on va parler de l'ONPL. Est-ce que tu peux représenter un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas trop?
Tout à fait. Alors l'ONPL, c'est l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et en quelques mots, c'est un orchestre professionnel qui est composé d'environ une petite centaine de musiciens, 97 musiciens permanents pour être exact. Et c'est un orchestre qui propose toute l'année des concerts de musique classique, telle qu'on peut se l'imaginer, mais aussi des concerts un peu différents, tels que des ciné-concerts, des concerts famille, de la musique de chambre. Et comme son nom l'indique, c'est un orchestre régional, donc il se produit dans toute la région, mais principalement à Angers et à Nantes, à Angers au Centre de Congrès et à Nantes à la Cité des Congrès.
Et pour donner un petit peu à voir, qu'est-ce qu'on retrouve dans un orchestre ? Comment c'est composé ?
Tu veux dire au niveau des musiciens peut-être ?
Oui, c'est ça, au niveau des musiciens, combien il y en a ? Combien d'instruments, lesquels ?
Ok. Ça dépend des orchestres. Comme je te disais, l'Orchestre National des Pays de la Loire, il y en a 97 musiciens permanents. Déjà, peut-être pour que ça soit un petit peu plus clair, les musiciens permanents, c'est les musiciens qui sont salariés de l'orchestre. Et après, selon les programmes, on va pouvoir embaucher des musiciens dits supplémentaires. Par exemple, à l'ONPL, on n'a pas de harpe permanente. Donc, si jamais l'orchestre joue une pièce où une harpe est demandée, on va embaucher pour, du coup, le concert, une harpiste. Et pour ce qu'il en est des instruments qu'on y retrouve, vraiment tous les instruments, en fait, de l'orchestre symphonique. Donc, ça va des vents, des percussions et des cordes. À peu près la plupart des instruments que tu aurais aux têtes si tu t'imagines un orchestre. Je peux te les lister, mais ça risque d'être trop long.
Est-ce que c'est toujours composé de la même manière ou du coup, comme tu l'as dit, ça peut changer un petit peu en fonction des concerts, c'est ça ?
Exactement. Il y a une base. En fait, ça dépend des époques. Selon les époques, les compositeurs ont composé pour différents types d'instruments, pour différents effectifs. La tendance, c'est que généralement, plus la musique est récente, plus il y a d'instruments qui sont demandés. Et vraiment, en fait, les compositeurs, en composant, se disent « Là, j'ai envie d'avoir tant de violons, j'ai envie d'avoir une harpe, parfois même des instruments qui peuvent sortir de l'ordinaire. » Les percussions, notamment, de temps en temps, on a des clochettes, ou des jeux pour enfants, enfin il y a un peu de tout quoi.
Et est-ce que c'est toujours de la musique classique ce que font les orchestres ou ça peut être d'autres styles de musique ?
Ça dépend des orchestres à nouveau. En ce qui concerne l'ONPL, comme je disais, il a principalement une mission symphonique, donc c'est le répertoire tel qu'on l'imagine. Après, il y a aussi des concerts type crossover qui sont organisés de temps en temps. On avait notamment travaillé avec Thilassine, un artiste angevin de musique électronique, il y a quelques années. Donc, disons que c'est varié. Ça reste principalement symphonique, mais on propose un peu de tout.
Bruno, tu lèves la main, qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est tout, j'y étais, à Thilassine.
Ah oui, d'accord, je pensais que c'était toi, Thilassine, Julien.
Non, c'était vraiment génial.
Et Eve, est-ce que toi, tu connaissais l'ONPL auparavant? T'avais déjà assisté à des concerts de musique?
Alors, pas du tout. Moi, je connaissais vraiment pas du tout avant d'être missionnée pour tracter pour le concert.
Et donc, si on parle plutôt de ce concert étudiant donc, qui arrivera très vite, c'est ce lundi. C'est quoi l'objectif de ce concert?
Alors, l'objectif du concert, comme tu l'as dit, c'est un concert qu'on propose une fois par an. Et c'est de proposer un concert qui soit vraiment conçu pour le public étudiant. Sachant qu'on leur propose des actions toute l'année, mais c'est vraiment l'événement phare. Et l'idée, c'est déjà de leur réserver un concert. Donc, la salle du centre de congrès est réservée pour eux. Et aussi de s'adapter à leurs contraintes, notamment horaires. On sait que c'est une période où les étudiants sont très occupés par les études, période de partiel. Donc, on propose un concert d'une durée qui est plus courte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y aura 1h20 en fait entre le début et la fin. Et on propose aussi de présenter les pièces qui seront au programme. Il y aura quelqu'un sur scène qui va donner quelques éléments de contexte, de composition ainsi que des anecdotes pour proposer en fait à tous les étudiants qui ont toujours eu envie de pousser les portes du concert mais sans oser y aller, de leur proposer une occasion. Et un argument qui est effectivement tout à fait en faveur des étudiants, c'est le petit prix, les 3 euros, parce que c'est un tarif qui est bien en deçà de ce qui est proposé au tout public toute l'année. Donc,
Et Nolwenn mériterait justement pour 3 euros d'aller découvrir tout ça, je crois.
Exactement, et pour parler des œuvres plus précisément, là on en aura deux ce soir qu'on pourra écouter, le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel et la symphonie numéro 3 de Johann Brahms. À quoi elle ressemble? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu à voir de quoi elle parle?
Alors,
elle a justement
pas ce
rapporté son violon.
C'est ça, préparez-vous. Non, excuse-moi, tu as dit ce soir, mais c'est bien lundi le concert.
Oui.
Et pour les deux œuvres au programme, la première, ce sera le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Maurice Ravel, qu'on connaît surtout pour son boléro. Mais il a écrit d'autres pièces, dont ce concerto. Et pour ceux qui sont pas nécessairement connaisseurs de la forme concerto, l'idée, c'est qu'on a un instrument soliste qui est vraiment sur le devant de la scène et qui est l'instrumentiste phare du concert et qui est accompagné et va dialoguer avec l'orchestre tout au long de la pièce. Et concernant cette pièce, l'instrument à l'honneur, c'est le piano. Et la particularité de cette œuvre en particulier, d'où son nom, c'est que le pianiste ne va utiliser que sa main gauche pour l'interpréter. Cela, pas parce que c'était une idée farfelue du compositeur, mais parce que, pour la petite histoire, cette pièce a été commandée par un pianiste qui avait perdu son bras droit lors de la Première Guerre mondiale, et du coup avait passé commande à des compositeurs de l'époque pour pouvoir poursuivre sa carrière. Et Maurice Ravel avait choisi de relever le défi.
Et pour la deuxième symphonie numéro 3, de quoi elle va parler ?
De quoi elle parle? Alors, c'est ouvert à l'interprétation de chacun. En tout cas, c'est une symphonie que Brahms a écrite lorsqu'il avait 50 ans. Et il était à ce moment-là en vacances, dans la campagne allemande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on y retrouve notamment le caractère pastoral de la campagne allemande. Mais on y entend ce qu'on veut en soi. Il n'y a pas nécessairement de... Pas à ma connaissance, en tout cas.
Justement, on va écouter un extrait audio d'une de ces deux pièces et on revient tout de suite avec toi après, Alix. revient avec vous, Alix et Eve. Tout à l'heure, on parlait de l'ONPL et du coup, notamment du concert étudiant qui est organisé ce lundi au Centre des Congrès. D'ailleurs, c'est la combienième édition, Alix?
Et alors, j'en ai aucune idée.
Ça fait déjà pas mal de temps que...
Exactement.
Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de l'édition précédente en 2023?
Qu'est-ce qu'on a pu retenir? En tout cas, comme tous les ans, on a des retours très élogieux de la part des étudiants. Là, Eve pourrait témoigner parce que vu qu'elle promeut depuis plusieurs midis d'affilée l'événement auprès des étudiants, il y en a pas mal qui étaient présents les années précédentes qui disaient que généralement ils sont plutôt contents de l'expérience, quoi.
Et justement, Eve, tu en penses quoi de cette initiative?
Moi je trouve que c'est vraiment une super initiative pour les étudiants. Moi-même je connaissais vraiment pas du tout la musique classique avant d'avoir été invitée à un concert du coup par l'ONPL avant de tracter du coup. Et franchement c'est une super expérience, je recommande de ouf et surtout que pour vraiment pas cher quoi.
Est-ce que toi la musique classique c'était quelque chose que t'écoutais, que t'avais envie de découvrir? C'est quoi ton rapport à la musique?
Alors non, j'écoutais pas du tout de musique classique ou vraiment très très peu, genre un peu de piano. Et moi, mon rapport à la musique, je joue un peu du ukulélé depuis un an. Voilà, c'est mon seul vraiment rapport à la musique instrumentale, quoi, enfin symphonique.
On a un ukulélé ou pas à l'ONPL, Alix?
Ça peut arriver, mais c'est
très ponctuel.
C'est plutôt ponctuel.
C'est avec la harpe, du coup.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, Eve, tu travailles aussi avec trois autres étudiantes pour promouvoir ce concert étudiant. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment tu fais pour promouvoir cet événement?
Alors du coup on a eu une première mission qui était de l'affichage, donc là on allait vraiment dans les facs à des endroits de passage pour mettre des affiches du coup du concert et déposer des flyers par-ci par-là. Et sinon après notre deuxième mission c'était de tracter, donc là on est là tous les midis sur Belle-Beille et Saint-Serge, on est répartis deux étudiantes à Belle-Beille et deux à Saint-Serge, moi du coup je suis à Belle-Beille. Et on se positionne à des endroits stratégiques comme la queue du rue, donc du restaurant universitaire, où je vais beaucoup tracter. Il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui attendent et qui du coup n'ont rien à faire pendant qu'ils attendent. Donc j'en profite pour aller les voir et je leur demande s'ils vont bien, tout ça. Et après je leur dis, j'ai une super offre pour vous, est-ce que ça vous intéresse de m'écouter? Et en général ils me disent oui et je leur explique le principe du concert, que c'est pas cher, c'est pas trop long et c'est l'occasion de découvrir la musique classique pour pas trop cher.
Justement, Alix, comment on fait pour attirer les jeunes? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières? On met des prix bas? On est présent sur les réseaux sociaux? Comment on fait?
Je pense que tu as listé les deux principales. Effectivement, le tarif, c'est un argument de taille, évidemment, parce que on s'adapte au porte-monnaie du public vers qui l'événement se destine. Et pareil, on met effectivement pas mal le paquet sur la communication sur les réseaux. On a également l'aide des quatre étudiantes telles que Eve, et on a aussi la chance d'avoir des relais à l'université d'Angers et à l'UCO également, qui nous aident vraiment à communiquer autour de cet événement et qui nous invitent à des permanences type carte culture où du coup on a l'occasion de rencontrer les étudiants. Donc,
Et il y a peu de jeunes donc qui vont voir des orchestres. Pourquoi c'est pourquoi il y a des préjugés? Pourquoi ils persistent? Quels sont les freins?
Alors effectivement, bon ça c'est comment dire, c'est quelque chose, c'est une lutte qu'on a en tant que personne qui travaille pour un orchestre, de faire en sorte que le public jeune se sente concerné et surtout comment dire, ne grandissent pas avec l'idée que c'est un répertoire qui n'est pas adapté ni intéressant pour eux, et sachant que c'est vraiment une idée reçue. En fait, on le voit parce que du coup, je travaille au service de l'action culturelle, comme tu l'as dit, et un des défis qu'on a justement, c'est de faire en sorte que l'orchestre puisse toucher tous les publics qui d'eux-mêmes ne se rendent pas régulièrement dans les salles de concert, et également de préparer le public de demain. Et donc pour ça, on propose des concerts pour les petits, pour les collégiens, les lycées, etc.
Et en parlant de public jeune, Bruno, t'as une remarque, je crois.
Oui, en fait, c'est surtout parce que historiquement, c'est très cher, en fait. Comme l'opéra et tout ça, dans les esprits, le classique est très cher. Et donc, du coup, ils vont même pas aller jusqu'à demander... moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le classique, mais qui n'osent même pas demander, parce que c'est le genre de truc où faut venir habillé en costard. il faut... Voilà, et puis c'est très cher. Alors que maintenant, ça s'est démocratisé énormément, et ce genre de soirée est vraiment très intéressante.
Tout à fait. Et alors déjà, on n'a pas du tout besoin de venir en smoking au concert. Notre public est venu, ne vient pas en smoking. Et concernant le tarif, merci de ton intervention, parce que ça me permet de préciser que... Alors, ce concert, il est à 3€ pour tout le monde et réservé pour les étudiants, mais on a des tarifs super avantageux pour les jeunes toute l'année, puisque pour tous les concerts de notre programmation tout public. Les jeunes peuvent avoir un ticket à 3€ s'ils se présentent le soir même à la billetterie une heure avant le début. Donc vraiment, c'est un préjugé qu'on peut totalement casser.
Et justement, Eve, est-ce que tu rejoins ce que dit Bruno sur le fait que toi étant jeune, le prix, ça peut être un vrai frein, ou c'est qu'il y a d'autres préoccupations aussi, d'autres centres d'intérêt peut-être ?
Oui, je pense que c'est vraiment principalement le prix qui est un gros frein pour les étudiants. Enfin, chaque fois que je leur ai parlé sur les campus, ils m'ont dit « Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pas cher pour un concert », quand je leur présentais du coup le concert étudiant, et qu'ils me disaient que souvent, eux, ils auraient bien aimé essayer avant, mais que là, c'est le prix qui les a convaincus d'y aller, quoi, parce que ça reste très cher habituellement.
Oui, et puis le prix, c'est un argument, mais il y a aussi ne serait-ce que le plaisir des oreilles. On a entendu un extrait tout à l'heure, ça fait plaisir à tout âge, j'imagine.
Et Alix, est-ce qu'il y a d'autres actions le reste de l'année, du coup, en plus de ce concert ?
Tu parles pour les étudiants ?
Pour les étudiants, exactement.
En particulier, bah alors justement, en fait, comme ce que je disais à l'instant, on propose un tarif extrêmement avantageux toute l'année, puisque des places à 3€, il faut en profiter. Ça ne dure pas justement toute la vie d'avoir accès à ce genre de tarif. On propose également, donc d'ailleurs, appel à tous les étudiants qui souhaitent organiser ce genre de choses. Si jamais on a des promos, des associations étudiantes qui souhaitent organiser des sorties de groupe, c'est tout à fait possible sur des programmes de la saison. Et ce qu'on organise régulièrement, c'est des rencontres avec des musiciens de l'ONPL en amont ou à l'issue des concerts, où du coup ils peuvent découvrir le métier de musicien d'orchestre qui reste assez méconnu.
Est-ce que la famille et les très jeunes enfants dans les écoles, c'est aussi un public que vous cherchez à attirer ?
Tout à fait. En fait, globalement, dans mon service, notre but, c'est de toucher tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui ne se rendent pas dans les salles de concert.
Oui, Eve, j'ai juste une petite question. Toi, si tu avais 3 arguments à mettre sur la table du studio, là, pour au-delà du prix, peu importe, pour aller au moins découvrir de la musique classique, de la symphonie, aller en concert et puis se laisser porter par l'immersion.
Déjà, le premier argument que je donnerais, c'est l'expérience, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie, même si on n'est pas forcément fan de musique classique à la base, au moins par curiosité. Et franchement, le vivre, c'est vraiment quelque chose, Enfin, on sent vraiment l'acoustique des instruments qui revient, c'est assez fou, quoi.
Ouais, parce que la musique classique, finalement, il y en a partout, dans les films, dans les pubs, des fois même pour des parodies, en fait, que ce soit un registre plutôt classique ou même plutôt récent, mais avec un orchestre et puis des instruments vieux, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, il y en a partout, mais le fait d'aller voir en concert, c'est vraiment une expérience unique.
Ouais, et puis ce qui est spécifique et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en tant qu'étudiant, enfin moi je fais beaucoup de festivals, et souvent en festival la musique est amplifiée du coup par des enceintes, etc. Alors que là vraiment, en concert du coup d'orchestre au centre des congrès, la musique est pas du tout amplifiée, c'est vraiment le son pur des instruments, et avec toute l'acoustique de la salle qui fait que ça revient et ça vibre en nous, quoi. Enfin c'est vraiment une expérience très différente de ce que j'ai pu entendre habituellement dans des festivals, etc.
Malouane ?
J'avais plus de questions.
Eh ben on a fait le tour du sujet, quoi qu'on pourrait encore l'étendre. On pourra d'ailleurs redonner au moins les infos pratiques tout à l'heure, Alix et puis Eve, bien sûr, et puis aussi continuer à convaincre le jeune public, mais pas que, puisque bien évidemment, Bruno, je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as été en concert de musique classique ?
Alors, classique, ça fait un peu plus de temps, mais j'aime bien. Alors, le son, t'as vraiment raison, hein, parce que les sons des concerts, c'est toujours pourri. Et là, c'est un des rares concerts, le classique, où on peut vraiment avoir un son agréable. En plus, on est assis, les sièges sont très agréables, c'est chauffé. Donc, c'est vraiment une expérience cocooning qui est très intéressante à vivre.
Bon, bah, autre expérience très intéressante à vivre, je crois, Nolwenn, elle arrive maintenant, hein.
Exactement, on passe à l'édito en pro de Bruno et c'est maintenant.
Oye, oye, producteur de Radio Chez, c'est maintenant qu'arrive le plus beau. Dans votre radio, venez vous approcher, c'est le moment de l'édito de Bruno.
Et ça a même été annoncé.
Bruno.
L'édito impro.
Oui, donc, je sais pas, y a pas.
Est-ce que ça a été improvisé
oui,
ce soir?
Oui, bah, toujours, évidemment, oui. Ah, c'est à moi. Bon alors, écoutez, scoop, on n'a jamais été aussi près de Noël 2024. Si après ça, on vous dit qu'on vous apprend pas de vraies infos dans Topette quand même. Et cette année, encore plus qu'avant, c'est le boom des calendriers de l'Avent. Mais alors attention, l'Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T, hein, pas A-N-T comme avant, après, d'accord ? Avant, dans un calendrier de l'Avent, c'est un mot latin qui signifie l'action d'arriver, sous-entendu l'arrivée du divin enfant. Voilà. Alors voyez, on apprend quand même des choses. Vous le saviez, les filles, que c'était quand ça s'écrivait comme ça ? Oui ?
Je m'en suis rappelé.
Ah, comme ça, hop, comme ça. Alors, donc, le calendrier de l'Avent, c'est 24 petites trappes à découvrir tout le long de décembre, avec une surprise chaque jour. Moi, j'aurais préféré le calendrier de l'après, avec 341 surprises, mais ça ne se fait pas. Peut-être un concept à ouvrir. Alors, à chacun y va de son calendrier de l'Avent. Eh bien, moi, je pense qu'on devrait faire le nôtre. Par exemple, un calendrier de l'Avent avec chaque jour une clé USB avec dessus une des meilleures émissions de Topette. Ouais. Oui, enfin, le problème, c'est d'en trouver 24 de bonnes, en fait. Hein. Mais
avec
bon.
Les USB, tu parles, bien sûr.
Bien sûr. Hey, ça pourrait être encore pire, parce que si on faisait avec les meilleures chroniques de Raphaël, là, on aurait un calendrier de 3 jours. Hein. Et encore. Hein. Voilà, Raphaël. C'est gratuit, c'est cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir. En tout cas, je vous ai recherché les idées de calendrier de l'Avent pour faire des cadeaux. Et pour toi, Pierre-Benoît, j'ai le calendrier préservatif avec un goût différent chaque jour. Ah oui, non. Ah non, vu ta situation, non, ça va pas te servir. Bon, alors les auditeurs se disent « Ah bon, quoi, comment, pourquoi ?» Ben, vous avez qu'à lire « Voici » comme tout le monde. Bon, du coup, pour oublier les 18 prochaines années que tu vas vivre, Pierre-Benoît, j'ai pour toi le calendrier alcool. Alors, tous les jours, une mignonnette hein, pour se mettre minable. Alors, il existe aussi en bière. Je dis ça à côté d'une Noxambule, donc elle va être contente. Alors, le tout avec modération, évidemment, hein, et une case unique par jour.
Ça peut aussi être une topette, hein, ça vient de là, à la base.
Oui, effectivement. Hein. Alors, sinon, j'ai le calendrier fromage, alors qui vous propose un fromage par jour. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas l'oublier, tellement il parfume votre appartement. J'ai aussi le calendrier viande, bon, séché, hein, quand même, je précise. Existe aussi en saucisson, à ne pas offrir donc à un vegan. Alors, au Canada, on passe de très bonnes fêtes avec le calendrier cannabis. Voilà, tous les jours à mâcher ou à fumer, 24 jours à planer pour 200 euros. Alors, en France, on a celui du CBD, bon, c'était un petit peu moins efficace.
C'est le deuxième Canada, c'est ça, le cannabis?
Oh, c'est beau, joli.
C'est pour Charles, c'est l'édito en pro, ça.
D'accord, ok, très bien. Alors, si vous avez un animal, il y a aussi un calendrier de l'Avent pour lui, avec des croquettes différentes chaque jour. Voilà, méfiez-vous que dans son élan, il ne bouffe pas le petit Jésus quand même à la fin. Pour les fans de bricolage, le calendrier outillage, et je vous rassure, hein, je vous assure, ça existe, avec un outil par jour, et hop, un tournevis aujourd'hui. Super, la magie de Noël. Bon, sinon, il y a le calendrier de l'Avent des contes et légendes de l'Anjou, n'est-ce pas, Pierre-Benoît? Un conte par jour à écouter dans Podcast Plus sur le site radio-g.fr.
En clé USB.
Voilà, je l'ai placé. Allez, à dans 15 jours et sans rancune.
C'est la fin de l'édito. Pierre-Benoît dit pas trop tôt. Vous pouvez remettre le volume. À bientôt et sans rancune.
À bientôt, c'est dans 2 semaines, je crois, Nolwenn. Et on parlait de croquettes. On va rester en croquettes, hein.
Exactement, je vous propose maintenant de passer à la chronique de Choupi Matoudi, la chronique féline de Topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, une simple question. Comment chat va ? Oui, comment chat va ? Avoir un petit félin dans notre vie, c'est profiter de sa présence apaisante, pouvoir peut-être jouer avec lui, le caresser s'il apprécie, ou encore s'étonner de certaines attitudes, s'attendrir de ses petits ronrons quand il s'installe sur nos genoux, ou mieux encore sur notre clavier d'ordinateur. Non, je ne parle pas du tout pour moi. Mais bien souvent, quand on voit notre chat, ou bien celui du voisin, de sa sœur, de son copain, on ne le regarde pas vraiment. Comment ça ? Félix a beaucoup maigri ce mois-ci ? Hein, Choupette ? Non, elle va bien. Bon, elle vomit tous les jours, mais les chats, tu sais... Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à l'origine, le chat est un prédateur autant qu'une proie. Et que peut faire une proie pour survivre ? Cacher ses faiblesses, entre autres. Les problèmes de santé du chat sont souvent détectés assez tard par leurs humains, parfois malheureusement trop tard, parce que nos petits félins ne manifestent pas immédiatement de mal-être, d'inconfort. Et puis, on détecte mal les signes de douleur chez eux. On ne réalise pas toujours qu'un chat qui mange moins, ou qui mange mais qui perd du poids, un chat qui se cache, ou un chat qui se pose dans sa litière toute la journée, c'est un chat qui va mal. La santé est un aspect crucial de la vie de nos matous, et c'est à nous, en humains responsables, de nous en préoccuper. Les visites de prévention, par exemple, sont un excellent moyen de faire le point sur la santé de Minou, et d'être accompagné par une équipe vétérinaire si des soins s'imposent. Aujourd'hui, pour parler de la santé de nos chats, j'accueille Agathe. Bonjour Agathe, comment vas-tu ?
Bonjour Lucie, ça va bien et toi ?
Ça va. Alors, toi tu es ASV. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier ? Qu'est-ce que ça signifie ASV ?
Alors, donc ASV ça signifie assistante spécialisée vétérinaire. Donc du coup, dans ce métier-là, on va dire qu'on a un peu deux parties différentes. On va avoir la partie administrative, où on gère l'accueil de la clinique, on gère le téléphone, on gère les rendez-vous, l'emploi du temps... on gère les stocks, les commandes, toutes les choses comme ça. Et puis on a toute la partie médicale, si on veut dire, donc vraiment l'assistanat au vétérinaire. Donc on va l'aider en consultation s'il y a besoin de faire un peu de contention pour faire une prise de sang, pour faire certains soins sur les animaux. Et puis on va aider aussi en chirurgie, donc l'avant-chirurgie, on va préparer le chat à la chirurgie, l'endormir, le raser, préparer les instruments, un peu comme une infirmière, mais pour les animaux.
T'es multitâche alors?
C'est ça.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus?
Bah, moi, c'est le côté médical, mais beaucoup d'assistantes vétérinaires vous diront ça, c'est plutôt le côté animaux que le côté humain, même si ça va ensemble.
Bien sûr. Alors, tu exerces dans une clinique un peu particulière, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors bah, du coup, j'exerce dans la clinique Mon Chat et Moi, et c'est une clinique réservée aux chats.
Alors, qu'est-ce que ça implique?
Eh ben, du coup, en fait, on a remarqué depuis des nombreuses années que les chats sont des animaux très, très stressés et qui ont beaucoup de mal à sortir de chez eux, à part si c'est des chats d'extérieur qui sont habitués à leur jardin. Mais ils ont vraiment leur territoire défini et dès qu'ils sortent de leur territoire, ils sont très stressés, très peureux, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être tout timides, ils peuvent vraiment avoir des réactions très différentes d'habituellement chez eux. Et ils sont aussi très sensibles aux odeurs. Donc, du coup, dans une clinique traditionnelle, il y a tous les autres animaux, il y a les chiens qui aboient, il y a toutes les odeurs des autres animaux. Et ça, c'est vraiment un gros stress pour eux. Et du coup, des fois, ça dérange vraiment beaucoup pour l'examen clinique du vétérinaire. Il a énormément de mal à faire des choses sur le chat. Et du coup, bah, le fait d'être vraiment réservé au chat, tout est... Bah, du coup, il n'y a que des chats. Et vraiment, tout est adapté. Les salles de consultation, il y a pas mal de... Enfin, on essaye de mettre des étagères en hauteur pour que les chats ils aiment bien se percher en hauteur. Donc, ça les aide. On a des petits diffuseurs d'huiles essentielles pour les apaiser, tout est calme, il y a une petite musique d'ambiance. Enfin, on essaye de tout faire au mieux pour que le chat soit le moins stressé possible et que du coup le vétérinaire puisse au mieux faire son examen clinique et se rendre compte des problèmes ou pas, parce que le chat les cache beaucoup. Donc s'il est plus à l'aise, il va un peu moins cacher ses petits symptômes.
Oui, en effet, c'est quelque chose de vraiment crucial. Est-ce que toi-même, tu as une histoire qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours professionnel?
Alors, il y a en fait... Peut-être pas forcément une histoire précise, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qu'on fait suivre leur chat dans d'autres cliniques. Et une fois arrivés chez nous, dès le début, ils nous disent « Bon, alors mon chat, il est un petit peu agressif, il a beaucoup de mal chez le vétérinaire, etc. » Et au final, vu qu'on met tout en œuvre vraiment dans la douceur pour mettre à l'aise le chat, bah, beaucoup de fois, les gens sont étonnés. Ils nous disent « Waouh, mais je l'ai jamais vu aussi à l'aise que ça chez le vétérinaire, c'est trop cool, etc. » Et du coup, bah, ça, à chaque fois, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit que vraiment, c'est un concept qui est réel au final et qui met vraiment à l'aise les chats et au final, les humains avec, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça permet aussi aux humains de pouvoir mieux appréhender les problèmes de santé de leur chat, sans
c'est
doute.
C'est ça. Parce que du coup, en fait, le stress du chat fait aussi stresser les humains et inversement au final. Et du coup, bah, si les petits humains ils sont plus à l'aise à venir chez le vétérinaire, ils vont moins stresser, ils vont pas se dire oh là là c'est une horreur. Non mais moi je l'emmènerai que s'il est malade parce que sinon ça me stresse trop, c'est trop compliqué. Et donc là au final le fait que ça apaise un peu tout le monde, bah ils viennent beaucoup plus souvent pour faire de la prévention. Et bah comme tu l'as dit au tout début, bah c'est super important la prévention chez le chat. Vu qu'il cache beaucoup, beaucoup les symptômes, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le concept de ce qu'on appelle la clinique cat-friendly.
Ouais,
c'est-à-dire faite pour les chats, vraiment, dans un environnement qui est destiné à les aider.
C'est ça, tout à fait.
Alors, Agathe, on arrive déjà à la fin de cette chronique. Oui, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Alors, bah, je voudrais vraiment ajouter que, comme on l'a dit, vraiment, les chats, ils cachent énormément leurs symptômes. On se rend pas compte qu'ils sont malades. Et ça, c'est vraiment d'expérience. Une fois que les symptômes sont arrivés, c'est que la plupart des maladies sont déjà bien avancées. Et c'est malheureux parce que du coup, des fois, on peut pas les traiter. Donc vraiment, allez voir votre vétérinaire tous les 6 mois pour votre chat et il sera en meilleure santé.
Oui, la prévention, c'est
très capital. Important. Ouais, ouais.
Merci à Agathe.
Merci.
Merci à tous.
C'était le podcast Choupi Matoudi à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site radio-g.fr. Et maintenant, on accueille notre deuxième sujet de la soirée.
Topette avec Claire Benoît sur Radio G.
Et oui, Nolwenn, merci. D'ailleurs, je vais reprendre la main pour accueillir notre deuxième invité de la soirée. Bonsoir, Willy.
Salut, bébé.
Voix bien connue de l'émission Topette, hein, pour les habitués de cette émission chaque jour. On était d'ailleurs la dernière fois à l'esprit du chaudron avec Sandrine. Ça va, t'as passé un bon Halloween depuis?
Oui. Moi, je l'ai fait avec mes neveux et mes nièces le soir.
Ouais, la récolte de bonbons a été bonne.
Bah, en fait, c'est moi qui l'aurais amené direct, donc.
D'accord, c'était toi le Père Noël du bonbon.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
D'une certaine façon. Bon, autre sujet, laissons ça de côté. On vous renvoie vers le podcast du 31 octobre. C'est facile à s'en souvenir. C'était le jour d'Halloween pour découvrir l'émission qui était depuis l'esprit du chaudron. Petite pub au passage. Ce soir, Willy, tu es là avec ta casquette, car tu en as plein. Mais ce soir, tu es là avec ta casquette de Cours et 49, car tu es membre de cette association angevine du cinéma qui fait référence quand même sur le territoire. Tout est dans le nom, 49, court-métrage, voilà. Et depuis maintenant quelques années, presque, vous proposez Cours en folie, des soirées avec les folies en angevine. Là aussi, tout est dans le nom. Et cette année, on reprend à partir du 25 novembre à 20h aux folies angevines pour une nouvelle séance de projection de différents courts-métrages. On va en parler, bien évidemment. Je crois même que tu as le synopsis de la plupart des réalisations qui seront projetées ce soir-là. Mais avant tout ça, peut-être... Vu que c'est la première de la saison, rappelez ce qu'est Cours et 49.
Alors oui, Cours et 49. Donc là, on parle de l'association.
L'association. Ouais.
Ouais, l'association. Donc bah en fait, c'est une association, hein, comme son nom l'indique, qui on va dire réunit des gens qui ont envie de réaliser des films. Donc ça peut être des amateurs ou des pros ou semi-pros, mais en tout cas des gens qui ont voilà, qui ont des envies, qui ont des idées, des scénarios par exemple, et qui cherchent des gens pour pouvoir concrétiser leur film. Donc parce que ça se fait pas tout seul, malheureusement, un film. Donc même quand on le fait en niveau entre guillemets amateur, dans le bon sens du terme, bah il faut quand même qu'il y ait du monde.
Oui, sur Angers, il y a finalement pas tant de structures ou d'assos qui peuvent proposer ça. Cours et 49, ça regroupe pas mal de monde quand même.
Ouais, alors il y a d'autres associations quand même qui sont un peu orientées sur le cinéma, mais vraiment sur la partie réalisation, je pense que Cours 49 c'est quand même vraiment la plus marquée, ouais, sur Angers.
Est-ce que tu sais combien de personnes il y a maintenant d'adhérents?
Écoute, cette année, je pense que on doit être sur une trentaine. Ouais, ouais. Donc avec des noyaux durs, enfin des gens qui restent régulièrement, et puis quelques nouveaux aussi. Donc c'est bien, ça s'agrandit.
Et toi, maintenant, ça fait depuis combien de temps que tu es engagé auprès de cette association?
Écoute, moi j'ai commencé en 2018, donc ça fait 6 ans, genre 7e année là.
Souvent au son, je crois, non?
Oui. Oui. Enfin, pas que, mais souvent, ouais.
C'est le perchman, Willy, t'es un peu le perchman de Cours et 49 pour caricaturer. Bien sûr que non, il y a plein d'autres projets d'ailleurs. Est-ce qu'en ce moment, il y a un gros projet qui est sorti ou qui est en cours?
Je sais que oui, il y a des projets qui sont en cours. Maintenant, leur état d'avancement...
ça reste secret?
Non, mais je sais qu'il y a eu... Enfin, ça a été discuté sur la réunion du mois dernier. Mais je crois qu'il y a deux films là, qui sont en cours. Ouais. Sinon, il y a eu des projections aussi dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de films qui ont été faits sur les deux dernières années. Et il y a eu pas mal de projections l'année dernière, même cet été. Il y en a même eu une assez récemment, là, en octobre.
Oui, et puis même, alors je sais pas si c'est celle d'octobre ou de septembre, c'était peut-être en octobre, aux 400 coups, on avait reçu Cécile Baudson pour nous parler d'une, ouais, de ses réalisations et puis des autres projections qui avaient lieu.
C'est ça, effectivement. Donc il y en avait eu une aux 400 coups en septembre, et il y en a eu une deuxième qui était au Théâtre du Champ de Bataille en octobre.
Voilà, bon, ça c'était un autre sujet, on vous renvoie vers les podcasts si vous voulez jeter une oreille et puis découvrir un petit peu ce qui a pu être projeté à ces occasions-là. En tout cas, nous, ce soir, ce qui nous intéresse bien particulièrement, c'est la date du 25 novembre prochain qui arrive à grands pas, donc à 20h au Folie Angevine pour la première édition de la saison de Cours en Folie. C'est facile à deviner, mais je te pose quand même la question. Cours et 49 a été toqué aux portes des Folies Angevines et bam, Cours en Folie est né.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, là, en fait, c'est notre troisième saison, on va dire. Donc, ça fait 2 ans qu'on a commencé. Initialement, c'est juste, en fait, parce qu'on avait fait organisé une projection de film qui avait été réalisé sur un atelier. Et en fait, suite à ça, Pascal Bonnel, donc, qui est un membre de l'association, s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ferait pas des projections régulières? Donc, pour montrer nos films, mais pas que les nôtres. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand on fait des appels à films, nous, par exemple, sur une soirée, en général, on va essayer de programmer un film de l'association et les autres qui vont être des films de réalisateurs de la région.
Oui, justement, là, il y a combien de réalisations qui ont été retenues pour cette première édition? Est-ce qu'on a essayé d'avoir des réalisations un peu plus, pas marquantes, mais un peu plus singulières pour la première de la saison?
Après, ça c'est compliqué à dire, je vais rester au goût de chacun. En tout cas, là on est sur 5 films, souvent on est entre 4 et 6, parce que ça va dépendre du timing. La soirée dure grosso modo 2 heures. Et en général, on a à peu près 1 heure de film, donc en durée cumulée. Et entre chaque film, enfin après chaque film, il y a un échange d'une dizaine de minutes avec le réalisateur ou une personne de l'équipe.
finalement, c'est juste du plaisir. On prend plaisir, nous, à venir à découvrir des réalisations qu'on pourrait peut-être pas voir dans les médias ailleurs. Et les personnes qui ont réalisé ces films, ces courts, peuvent rencontrer le public et puis peut-être s'exprimer plus clairement sur leurs intentions.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, bien sûr que c'est quelque chose de, c'est du plaisir. Alors, pour, certainement pour les spectateurs. Mais effectivement, pour les gens, quand on réalise un film, sachant le temps, l'énergie que ça prend, quand on peut le partager et en plus avoir éventuellement des retours, que ce soit, donc il y a Pascal en général qui, enfin d'ailleurs non, Pascal ou Johan, qui anime la soirée. Mais après, souvent, il y a un temps dans le bar des Folies, où les gens du public peuvent aussi venir discuter avec, avec les gens de l'équipe. Donc c'est toujours agréable quand même d'avoir, d'avoir un contact direct.
C'est ce qu'on appelle en théâtre un bord de plateau, d'une certaine façon, après la représentation. Si on brosse rapidement, du coup, les cinq réalisations qui vont être projetées, alors je sais pas si tu as le synopsis, on peut peut-être au moins les présenter, nommer le titre et puis le nom des personnes qui les ont réalisées.
Voilà, alors on va avoir donc un film qui s'appelle Promets-le-moi, donc de Timothée Lunel. Donc c'est un jeune qui a rejoint d'ailleurs l'association Corée 49. Et donc je crois de mémoire que c'est un film qu'il a fait dans le cadre de ses études à Studio M, donc qui se trouve sur Angers. Hein. On a aussi donc L'éveil, donc de Mathias Averti. Là, on est plus sur un clip. En fait, c'est un clip musical. Donc nous, on est content d'en recevoir parce que c'est vraiment pas ce qu'on reçoit le plus. Et là, ça tourne autour de, ça parle un peu de la nuit blanche d'un enfant face à ses cauchemars. Mais voilà, il y a une chanson aussi derrière. On a Moi ça va de Bastien Bruère. On a aussi À petit feu, donc de Manon Filnambu et Tomek Moulin. Et on a Le secret de mon secret de Emmanuel Schaff et Gaëtan Boudy. Sachant quand même que sur ces cinq films, en fait, il y en a trois qui, j'ai envie de dire, alors c'est, ça n'a pas été un choix forcément conscient, mais c'est trois films qui parlent vraiment, on va dire, des rapports humains et enfin, notre rapport aux autres, les relations interpersonnelles, et aussi vis-à-vis de la société et des codes sociaux.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de thématique, on ne fait pas un appel à thématique, c'est, voilà, on fait l'appel à candidature d'une certaine façon, on recueille les propositions, mais vous n'essayez pas de classifier par rapport à des trucs qui sont drôles, qui sont moins drôles. C'est surtout le critère principal, c'est que ce soit des courts-métrages.
Voilà, ça c'est le premier critère. D'ailleurs, quand on fait l'appel à film, il y a deux conditions à remplir, c'est que c'est été réalisé, enfin qu'il y a un lien avec la région. Donc soit ça a été tourné dans la région, ou le réalisateur est de la région, quelque chose comme ça, et que ce soit 30 minutes maximum, sachant qu'on n'en passera pas deux de 30 minutes, sinon on aurait que deux films. Mais après, alors on ne fait pas forcément des thématiques, c'est pas une volonté à la base, par contre c'est arrivé qu'on en fasse deux, notamment au moment de la Saint-Valentin, donc on avait vraiment mis des thèmes, tout ce qui était autour de l'amour et des relations proches, on va dire. Et on en avait fait un peu plus tard sur l'adolescence, parce qu'on avait plusieurs films, en fait, qui tournaient autour de ce thème-là.
Bon, en tout cas, là, c'est pas autour du thème de la mort, hein, au mois de novembre. C'est vraiment des thèmes plutôt communs, mais c'est pas fait exprès. Si on veut participer, du coup, alors, pour les infos pratiques, il faut payer, comment ça marche?
Alors, ça dépend de quel sens on veut participer. Si on veut participer en tant que réalisateur?
Les deux.
D'accord.
Les deux.
Eh ben, en tant que réalisateur, en général, on fait des appels à films une à deux fois peut-être par trimestre, mais cela dit, ils peuvent venir sur le site cours49.fr et il y a une page en fait qui est dédiée à Cours en folie, où donc il y a les deux options, c'est-à-dire soit déposer son film, ou si on veut participer aux soirées, bah, c'est pareil, on peut retrouver ça sur notre page, et donc c'est 6 €. Voilà, on peut réserver les places directement en ligne, on a une page billet web qui permet de réserver les places, et même pour les dates qui sont pas encore, pour les prochaines dates quoi.
Et ben voilà, tout est dit, on est pile poil dans les temps, je pense qu'on a brossé large, on n'en dit pas plus bien évidemment, le mieux ce sera d'aller se rendre le 25 novembre au Folie en Juillet.
Exactement.
À 20h pour découvrir Cours en Folie, puis les 5 réalisations qui seront projetées. Willy, à moins que tu aies encore un dernier mot à dire, si tout est bon pour toi, on raccroche.
Et ben venez nombreux.
Et ben venez nombreux, merci beaucoup.
Merci.
Et Topette, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à nos invités, Alix et Eve. Alix, en quelques mots, est-ce qu'on peut résumer l'objectif de ce concert étudiant?
Tout à fait. Alors l'objectif, c'est de donner l'occasion à tous les étudiants qui le souhaitent de découvrir l'orchestre à tout petit prix, donc tarif unique à 3 €. Et c'est ce lundi 18 novembre à 20h au Centre de Congrès.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques, réserver ses places en ligne?
Oui, tout à fait. Sur le site de l'ONPL, vous cherchez sur votre moteur de recherche favori, concert étudiant ONPL, et vous allez tomber sur notre site. Vous pourrez également prendre vos places le soir même, mais on conseille de le faire en amont parce que ça remplit très vite.
Et ONPL, pour les plaies, c'est ONPL.
Oui, c'est Orchestre National des Pays de la Loire et pas Opéra. J'avais confondu avant de faire
C'était
l'interview.
Pas pour ça, mais tu t'es grillé tout seul, aucun ouais. problème.
Mais Eve, toi, est-ce que tu y seras lundi soir au concert?
J'espère. Je vais peut-être travailler, mais c'est pas sûr. Peut-être que ça va s'annuler au dernier moment, donc j'espère pouvoir y être.
Alors, et vas-y, excuse-moi, Nolan.
Pour toi, c'est quoi les arguments pour aller voir ce concert? Pourquoi c'est important?
C'est important déjà pour la curiosité, pour l'expérience, pour le tarif évidemment. Et c'est pas trop long, en plus ça prend pas toute la soirée. Et donc, c'est une expérience à vivre.
Pour la beauté de la proposition aussi.
La beauté de la proposition qu'on peut rappeler peut-être, Eve, si tu as. Non, ou Alix, peu importe, la proposition de ce lundi 18, les concerts, non pas les chanteurs, mais les personnes. Enfin, les œuvres qui seront représentées.
Alors, je sais qu'il y aura du Brahms.
Oui, la troisième symphonie de Brahms.
Voilà. Et sinon, il y aura quelqu'un qui va jouer du piano à une seule main.
Voilà, pour le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel.
Accompagné de tout un orchestre, bien évidemment, qui aura les deux mains.
Exactement, c'est ça. Et alors, je l'ai pas mentionné, j'en profite pour le faire maintenant. Le pianiste, ce sera Jean-Eflamme Bavouzet, qui a déjà interprété la pièce par le passé. Et l'orchestre sera dirigé par le chef d'orchestre espagnol, Roberto Forés Vezes.
Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit aparté sur toi, Eve, parce qu'on peut te retrouver, ta voix, on peut la retrouver ailleurs sur Radio G, je crois. Hein.
Oui, j'ai pas encore fait de chronique avec les Noxambules, mais effectivement, je travaille au Noxambule à côté, donc peut-être vous retrouverez ma voix bientôt sur Radio G dans d'autres chroniques.
Voilà, donc écoutez bien la voix d'Eve, elle sera maintenant bien connue sur l'antenne du 101.5 FM. Alix, avant de se quitter, peut-être les infos plus globales sur l'ONPL, les prochaines actualités hors concert étudiant ou action étudiante, je sais pas si tu as ça sous le coude avant qu'on se quitte.
Tout à fait. Alors avant la fin de l'année, il nous reste encore quelques programmes super sympas. La semaine du 25 novembre, ce sera un voyage en Italie qui sera proposé, notamment avec un concerto pour trombone et la symphonie numéro 4 de Mendelssohn. Et après, il nous restera quelques autres concerts, notamment le fameux concert de Noël qui sera dirigé par notre directeur musical Sacha Gutzel. Et ça sera du coup au mois de décembre. Vous aurez l'occasion d'entendre Casse-Noisette et l'oratorio de Noël de Saint-Saëns.
Avec un calendrier de l'Avent spécial ONPL peut-être, avec des petits instruments dans les cases, non?
On prend note,
une idée à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir dans Topette. On se retrouvera certainement l'an prochain pour réévoquer aussi cette action, ou même les autres temps forts de l'ONPL. Vous êtes toujours les bienvenus, bien évidemment. Merci Nolwenn, on se retrouve lundi, peut-être toi au micro, peut-être moi. On va tirer la courte paille et puis on verra bien. Bruno, on se retrouve dans deux semaines.
Oui, et dans Podcast Plus pour plein de choses.
Oui, tout Podcast Plus, c'est Bruno. Voilà. C'est signé de la patte de Bruno. Allez, prenez soin de vous. On va se quitter quand même avec un nouvel extrait de Ravel. Et on se dit bon week-end à lundi. Et topette.